Bienvenue dans Eucharistia, l'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présenté par Marie-Catherine Bédouré.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai mes petits cousins Emma et Go. Bonjour les enfants.
Bonjour. Bonjour.
Pour cette émission, ils vont m'accompagner et vous pourrez entendre leur petite voix. La présence de Dieu ne se manifeste pas toujours par des miracles spectaculaires, mais par de petits signes qui nécessitent notre attention et notre ouverture de cœur. N'ayons pas peur de faire confiance. Dieu travaille toujours. Dieu travaille en silence. Et c'est parce que Dieu travaille en silence que je vous propose d'écouter le récit qui suit. C'est dans l'Empire romain d'Orient, dans la brillante Athènes, que naît, en l'an 640, un petit garçon que rien, mais vraiment rien, ne prédestinait à l'ombre. C'est l'histoire de cet enfant que je vais vous conter. Fils d'une famille noble, Gilles, c'est son prénom, grandit dans une famille très riche, entourée de savoir, de confort et d'honneur. Il possède une intelligence vive, mais surtout un cœur brûlant de compassion. Très jeune, il accomplit un premier miracle. Il pose son manteau sur un pauvre malade et le guérit. La chose se sait, la rumeur enfle. Dans la ville, on parle d'un jeune homme béni de Dieu. Mais la gloire est un piège et ça, Gilles le comprend très vite. Alors que tout l'appelle à devenir puissant et respecté, il choisit l'inverse et quitte tout, sans escorte, sans richesse. Il cherche l'oubli. Pas la reconnaissance, pas la foule, le silence. Il traverse alors la mer, rejoint la côte de Provence, puis s'enfonce dans une forêt près de l'embouchure du Rhône, dans la France méridionale. Il trouve une grotte, s'y installe, elle sera son abri pour se consacrer davantage au service de Dieu. Gilles vit désormais en ermite, coupé du monde, et passe son temps en prière, entre austérité et jeûne, se nourrit d'herbes, de racines et de fruits sauvages, dort sur la terre nue, un caillou fait office de coussin. Mais Dieu a un dessein pour lui. Il lui envoie une aide inattendue. Une biche blanche vient chaque jour le nourrir de son lait et devient son unique compagnie. Mais le calme est de courte durée.
Des chasseurs pénètrent un jour dans la forêt de la vallée Flavienne. La battue, emmenée par Bumba, roi des Visigoths, poursuit un gibier exceptionnel, une biche blanche. Traquée, la bête se réfugie dans la grotte auprès de Gilles, qui prie, les mains jointes, et s'interpose. Un chasseur tire, une flèche transperce la main de Gilles et le blesse grièvement. Bouleversé, le roi apprend alors que la flèche a atteint un homme de Dieu.
Une amitié naît entre les deux hommes et le roi offre à Gilles tout le vaste territoire de la forêt et fait construire une abbaye. Gilles en devient le père spirituel jusqu'à sa mort le 1er septembre 720. L'abbaye de Saint-Gilles était née. L'anachorète, ce religieux contemplatif retiré du monde et vivant dans la solitude, voit prospérer une communauté de moines très actifs. Il travaille à l'évangélisation du territoire, mais aussi à la civilisation de la région. Il défriche les champs, fertilise les sols, ouvre des routes pour le commerce. Devenu abbé, Saint-Gilles conseille les plus grands, papes et rois. Une légende indique qu'un grand personnage mérovingien, le maire du palais Charles Martel, lui avait demandé l'absolution pour un péché très grave qu'il gardait enfoui au fond de son cœur. Alors que Gilles célèbre la messe, un ange place sur l'autel un parchemin sur lequel est consignée la faute, et surtout l'annonce que Dieu lui accordait son pardon. Au fur et à mesure que se déroule l'office, les traces écrites du péché s'effacent sur le parchemin grâce aux prières de Gilles. la miséricorde divine est plus grande que sa faute. Profondément touché, l'homme changera de vie. Cette légende est liée à la fondation de l'abbaye de Saint-Gilles, lieu important sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. De nombreux miracles lui sont attribués et grâce à eux, Gilles est bientôt connu dans toute la France sous le nom de Thaumaturge, qui fait des miracles. Connu même en Belgique, en Hollande, en Italie. Le culte du saint se répand aussi en Europe de l'Est, Slovaquie, Hongrie, Transylvanie. C'est à Tolfa et à Latronico, en Italie, que se renouvelle depuis 3 siècles le miracle de la manne attribué au saint ermite. Depuis 1716, un ou plusieurs vendredis du mois de mars, de la fresque représentant Saint Gilles en pénitence suinte un liquide incolore. Le peuple priait alors pour que cessent toutes les calamités naturelles qui s'acharnaient sur eux. Leurs prières furent exaucées. Depuis lors, le mystérieux événement se répète presque chaque année et est très attendu. Saint Gilles ne cherchait ni la gloire, ni le pouvoir. Il cherchait Dieu dans le silence. Dans l'ombre d'une grotte, un homme avait choisi de disparaître. Dieu en fit une lumière. Blessé pour avoir protégé une créature innocente, il devient le saint des humiliés, des pécheurs cachés, de ceux qui portent une faute qu'ils n'osent avouer. Saint Gilles fait partie des 14 saints auxiliateurs, un groupe de saints invoqués collectivement en période d'épidémie.
Partout, on retrouvait son symbole, la biche, la flèche, le livre.
Saint Gilles meurt en l'an 720 dans son monastère devenu célèbre et repose dans la crypte abbatiale connue pour ses sculptures romanes, chef-d'œuvre de l'art provençal. Au Moyen Âge, la ville de Saint-Gilles-du-Gard devient l'un des grands centres de pèlerinage d'Occident. Puis, elle tombe peu à peu en désuétude au XIVe siècle. Le tombeau de Saint-Gilles, redécouvert en 1865, relance l'intérêt du pèlerinage oublié. Les chemins renaissent dans les années 1960 sous l'impulsion de l'historien Marcel Giroux, qui les fait connaître et restaure plusieurs itinéraires historiques. Ce pèlerinage propose un nouvel itinéraire aux marcheurs. Il est connu aujourd'hui sous le nom de Chemin de Régordane, GR700, mais demeure pour beaucoup le Chemin de Saint-Gilles. Bonne route.
Au revoir les enfants.
Au revoir.
L'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présentée par Marie-Catherine Bédouret.